Cyril sur l'info. Grand format.
Le journal grand format avec Antoine Samoyou et son invité.
Et on reprend ce journal grand format consacré notamment au projet aquacole de Hao, dont l'annonce officielle des travaux était faite cette semaine par les investisseurs chinois de Tahitian Ocean Foods. Un projet annoncé depuis déjà près de 5 ans. C'est en novembre 2012 qu'on a entendu parler pour la première fois du projet de ferme aquacole au Tuamotu. Alors qu'Oscar Temaro était président du pays, le groupe chinois Jingming Investments avait signé une lettre d'intention précisant les premiers principes du projet. Depuis, il y a eu deux changements à la tête de la Polynésie française et le nom de la société chinoise a varié au fil des mois. Mais la construction de la ferme aquacole est en passe de débuter. Retour avec l'investisseur chinois Wang Sheng sur les prémices de ce projet ambitieux. Un sujet d'Élodie Largenton avec Wang Xiaoyang à la traduction.
5 ans de tractations, d'aller-retour entre la Chine et la Polynésie, 3 présidents différents et donc de nouveaux interlocuteurs à convaincre. Alors est-ce que face à ces difficultés, les investisseurs chinois ont pensé à abandonner en cours de route ? La réponse de Wang Shen.
Vous avez raison de dire ça parce que pour tous les investissements, si en fait le temps est trop long, il y a toujours ce moment en fait qui arrive, dit bon, peut-être je vais partir. Mais ça, ce projet-là, c'est un projet en fait de développement à long terme. Nous pensions qu'en fait il y a un très bel avenir qui nous attend. C'est pourquoi on est toujours là en fait en train de discuter avec le gouvernement afin d'aboutir à ce projet.
Mais pourquoi le faire absolument en Polynésie française au Tuamotu? Pourquoi les investisseurs chinois ont-ils tenu à faire ce projet ici? Pour Wang Shen, le Fénois présente 3 avantages.
Il y a plusieurs avantages qu'en fait les autres pays ne disposent pas. Le système de loi est complète dans ce pays. Ça, c'est la condition préalable pour l'implantation d'un projet industriel. Deuxième, c'est qu'en fait ici, il n'y a pas de catastrophe naturelle à l'extrémité. La Polynésie française dispose la zone la plus grande, lagon noir. Du coup, en fait, ces milieux-là est très bien pour faire l'aquaculture. Ça, c'est les 3 raisons principales que j'ai choisi la Polynésie française.
Autre source de motivation, la ferme aquacole répond à un réel besoin, notamment de la population chinoise, et les bénéfices sont donc quasi assurés pour l'entreprise Tahitian Ocean Foods.
Avec l'augmentation de la population mondiale, le besoin de la protéine alimentaire va aussi augmenter. Donc je pense que la Polynésie française dispose ces conditions pour répondre à ce besoin.
On l'a dit, Wang Shen a dû convaincre 3 présidents différents et se montrer patient. Du côté chinois, on ne parle plus aujourd'hui de Jingmin Investments ni de Tianhui, mais de Tahitian Ocean Foods. La société de droit polynésien a été créée en octobre 2014, mais derrière, c'est toujours le même groupe chinois et l'équipe chinoise n'a pas changé depuis le début.
C'est vrai, en fait, nous sommes vraiment un groupe de très grande taille qui couvre tous les domaines. Et c'est vrai qu'il y avait des sociétés qui étaient venues avec les différents noms, mais en tout cas, moi, j'étais toujours en fait le président du board de ces sociétés. Les personnes qui ont effectué les déplacements sont toujours les mêmes.
Ces investisseurs chinois profitent-ils de leur expérience polynésienne pour développer en parallèle d'autres projets de ferme aquacole dans le Pacifique? Pas pour le moment, répond Wang Shen.
Non, pour l'instant, dans d'autres pays. Par contre, aux États-Unis, on a racheté un projet à peu près pareil, mais c'est sur l'économie maritime. Le projet de la Polynésie française n'est pas quelque chose en fait d'être copié-collé. C'est un nouveau projet. Du coup, en fait, il nécessite de regrouper toutes les compétences, toutes les ressources afin de les mettre ensemble, de d'œuvrer ce projet.
Et en parlant de ressources, les chiffres n'ont pas beaucoup changé depuis l'annonce du projet il y a 5 ans. À l'époque, l'entreprise chinoise disait déjà vouloir investir 150 milliards de francs sur 15 ans.
Un sujet réalisé par Élodie Largenton. Je vous le disais en ouverture de journal, notre invité ce midi, c'est le président du pays, Édouard Fritsch. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on vient de l'entendre, il a fallu près de 5 ans pour faire aboutir donc ce long projet. Qu'est-ce qui a pris autant de temps?
Je pense que ce qui a pris le plus de temps, c'est effectivement la décision qu'a dû prendre l'investisseur pour investir sur Hao. Hao est une île qui est à pratiquement 2 heures d'avion de Papeete. C'est une île qui est isolée, les conditions de vie sont compliquées, il n'y a pas d'eau douce, l'électricité est prévue pour une population. Donc vous comprenez bien que pour le lancement de cette opération, les choses ont dû être pesées, repesées. Et puis derrière cela, effectivement, on a souvent parlé des autorités l'administration et des autorisations administratives. Je rappelle simplement, votre reportage est bien fait. Je crois qu'Elodie a effectivement bien résumé les choses. Mais Monsieur Wangchen a pratiquement pris sa décision au moment où il a déposé ses permis, ses demandes de permis de construire.
Ça, c'était quand?
Ça, c'était au mois... le premier permis a été déposé vers le mois de juin 2015. Donc et puis un deuxième permis pour le centre-ville 4-5 mois plus tard, et le dernier permis demandé, donc ça c'est pour l'activité d'une façon générale, a été déposé 6 mois après le premier la première demande. Les délivrances des permis de construire se sont faites un an exactement après, c'est-à-dire que dès le mois de juin 2016, nous avons effectivement autorisé la société Taitinui Ocean Food de commencer les travaux de terrassement. Quelques mois plus tard, l'autorisation de la construction de la centre et puis l'ensemble des permis de construire étaient pratiquement délivrés au mois de septembre 2016. C'est-à-dire, effectivement, nous avons fait de gros efforts au niveau de l'administration. Un bon travail de coordination a été fait par Madame Brigitte Otavi, qui a été la coordinatrice de l'instruction de ce dossier. Et ensuite, donc, depuis, Monsieur Wangchen, effectivement, est en train de caler beaucoup de choses. Mais je crois que, vous savez, ces quelques milliards investis sur une petite île comme Hao, effectivement, la décision ne doit pas être facile à prendre.
Et est-ce que vous considérez aujourd'hui que ce démarrage des travaux en décembre, annoncé pour décembre, c'est la garantie la plus ferme et définitive qu'il y aura bien, donc, une ferme aquacole de 500 employés en activité dans 4 ans à Hao?
Oui. Alors, il faut dire aussi que Monsieur Wangchen n'a obtenu aucune dérogation sur les autorités et sur les autorisations administratives. On t'accompagné les 3 autorisations de construire, 18 instructions sur l'environnement, les fameuses ICPE. Donc 18 demandes d'ICPE ont été demander à Monsieur Wangchen, qui a souhaité effectivement répondre à toutes ces questions avant le début du chantier. Et comme vous le savez, et c'est ce qui s'est produit donc cette semaine-ci, Monsieur Wangchen est venu passer 15 jours ici avec les services administratifs afin d'apporter les réponses satisfaisantes. Et comme il a dit en conférence de presse aujourd'hui, il a répondu pratiquement à 95% des exigences de l'administration. Il va commencer le chantier au mois de décembre.
Donc il n'y a plus rien qui peut faire capoter ce projet de ferme aquacole.
Non, il n'y a plus rien qui puisse faire capoter, mais il faut savoir que le travail n'est pas terminé.
Alors c'est l'aboutissement, ce projet, donc d'un des grands projets évoqués ces dernières années par le pays, l'un des principaux. L'autre, c'est évidemment le village tahitien, anciennement Mahana Beach. Où est-ce qu'on en est également de ce deuxième projet qui semble un petit peu patiné?
Alors pour nos auditeurs, Antoine de Radio One, je veux rappeler effectivement que Hao fait partie des deux grands projets qui avaient été lancés par les anciens gouvernants de ce pays. Oscar Temaru était aussi à l'origine de Hao. Et puis ce projet de Mahana Beach qui a fait couler beaucoup d'encre. Ce projet de Mahana Beach, je crois, et la principale difficulté auquel nous avons eu affaire, c'est que nous n'avons pas pu trouver en face des autorisations qui ont été données, des investisseurs, des personnes en tous les cas, des sociétés qui avaient de quoi investir sur ce projet de Mahana Beach qui était évalué à 2,5 milliards de dollars, c'est-à-dire près de 250 milliards de francs pacifiques. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé de société, nous n'avons pas trouvé de personne capable, et en tous les cas décidé à venir investir 250 milliards de francs pacifiques dans un pays qui fait 270 000 habitants et qui reçoit 200 000 touristes. Je crois que là, encore une fois, le risque, enfin en tous les cas, le calendrier au mois d'octobre 2014, lorsque je suis arrivé, l'évaluation du risque dans un tel investissement n'était pas terminée. Et je ne dis pas que il n'y a pas eu suffisamment d'instructions du dossier avant que les annonces aient été faites, parce que je pense effectivement qu'on a fait rêver les gens sur ce dossier. On a fait des annonces qui n'avaient aucune assurance derrière. Donc, mais par contre, aujourd'hui, je puis vous dire que effectivement, il n'y a pas d'investisseur à cette hauteur-là, et donc nous avons décidé de faire autrement, d'agir autrement, et en particulier en allotissant ce projet, c'est-à-dire qu'on le vendrait par partie, mais pas dans son ensemble tel qu'il était conçu au départ.
Et aujourd'hui, vous avez des investisseurs privés, locaux notamment, qui sont intéressés. Il y a eu une réunion encore il y a quelques semaines avec Nicole Bouteau et Théodore Fritsch.
Voilà, voilà, il y a effectivement quelques touches là encore. Je ne dis pas que c'est des choses qui sont garanties à l'assurer. J'attends la confirmation par écrit de leurs intentions, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il est prévu donc d'y construire 4 lots d'hôtels sur la terre de Tomorrow. Nous avons déjà 2 touches sur 2 des lots qui seraient proposés à la construction.
Avec qui
des sociétés locales. Je vous dirai au moment venu. Et puis, sur le reste, les consultations continuent. Puisque vous savez qu'il y a un lot qui sera destiné à des équipements beaucoup plus commercial, enfin à objectif commercial. Et puis voilà. Donc, nous avons changé complètement de stratégie pour amener ce projet à une échelle qui est, je pense, la nôtre.
Alors, Edouard Fritsch, vous l'avez dit, ce projet, il a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup plus que de béton en tout cas. Oui. Est-ce que la Polynésie a forcément besoin de ce type de grands projets pour fonctionner? Parce que, donc, comme on le disait, les projets sont très lourds, on en parle beaucoup, on les voit vraiment jamais arriver. Est-ce que c'est des projets qui sont dimensionnés, ces grands projets comme ça? Hao a mis 5 ans, mais finalement est arrivé. Est-ce qu'ils sont dimensionnés pour l'économie de la Polynésie?
Non, pour l'économie de la Polynésie et pour que ce que fournit l'économie de la Polynésie, c'est un projet surdimensionné. Je crois que, je vous rappelle quand même que le premier projet, on doublait pratiquement les capacités d'hôtels que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on passait de 3000 à 7000 chambres, et si l'on compte les 4000 chambres du projet. Écoutez, je pense que avant d'investir dans de tels projets, les investisseurs potentiels réfléchissent par deux fois, et je crois qu'effectivement nous étions dans un projet plus de rêve que de réalité.
De rêve politique, par exemple.
De rêve politique, par exemple.
Merci beaucoup, Edouard Fritsch. On marque une courte pause et on reprend ce journal pour parler justement politique.
Un premier sur l'info. Grand format.
Retour dans le journal Grand format avec Antoine Samoyo.
Et retour avec notre invité, le président Edouard Fritsch, ce midi. Et on va parler politique dans cette deuxième partie. Alors, les élections territoriales n'auront lieu que dans 7 mois. C'est à la fois long et court pour une campagne électorale. Et ils sont déjà nombreux à y penser le matin en se rasant. Tour d'horizon des candidats déclarés ou non avec Élodie Largenton qui nous a rejoint.
Et alors, on va commencer par ceux qui ont déjà officiellement annoncé leur candidature. Il y a d'abord Tauhitinena et son parti, Tauhoturo, la nouvelle ère. Dès sa création l'année dernière, l'objectif c'était les territoriales, ce que Tauhitinena a rappelé lors des dernières législatives, qui était une sorte de tour de chauffe pour le parti. À ses côtés, Tauhitinena peut toujours compter sur le RAIA, voire sur Heyura les Verts, mais ça n'en fait pas pour autant un poids lourd de la politique. Autre candidat déclaré plus récemment, Teiva Manutei, surprise des territoriales de 2013. Au premier tour, Pauline Etiaora avait obtenu 7300 voix, avant d'appeler à voter en faveur de la liste de Gaston Flosse au second tour. Et puisqu'on parle du leader du Tauera, on ne sait toujours pas si Gaston Flosse pourra ou non se présenter. Selon le parquet, l'ancien président reste inéligible jusqu'en juillet 2019, à la suite de sa condamnation dans l'affaire des espions de la présidence. Mais Gaston Flosse conteste l'échéance de cette période d'inéligibilité. Il estime avoir déjà purgé sa peine. En attendant, c'est donc le flou au sein du parti orange et certains sont tentés de se lancer de leur côté, comme Gilda Veijo-Fahatoa, suspendu récemment du parti et qui discute avec Tauhitinena et Teiva Manutei. Marcel Touyani, lui, n'est plus au Tauera et il n'a rallié aucun autre parti pour le moment. Alors, va-t-il se lancer seul dans la bataille des territoriales? En tout cas, il semble déterminé à y participer. L'UPLD n'unit plus grand monde aujourd'hui. Les indépendantistes devraient donc partir en ordre serré autour du Tavigny. Ils ont tout de même prouvé qu'il fallait compter sur eux aux législatives. Quant au troisième grand parti du pays, le Tapoura, tout jeune parti, mais grand favori de ces territoriales, il va tout de même falloir gérer les demandes des uns et des autres, à commencer par la côte ouest, qui se fait entendre, Jacques Graff à Paya et Putaitae à Papara.
Merci Elodie, la transition est donc toute trouvée. Je me tourne vers notre invité ce midi, Edouard Fritsch. On a entendu Putaitae déçu cette semaine sur Tahiti Info, déçu d'avoir été contraint de quitter son poste à l'Assemblée au profit donc de Nicole Sanquer. Quelles sont vos relations aujourd'hui, Edouard Fritsch, avec le maire de Papara?
Très bonne. Bonne relation. Effectivement, je crois qu'il faut bien préciser les choses. Putaitae est montée à l'Assemblée parce que Nicole Sanquer est montée au gouvernement. Donc aujourd'hui, elle redescend à l'Assemblée puisqu'elle ne peut pas cumuler avec son mandat parlementaire. Donc Putaitae sort de l'Assemblée de Polynésie française. Ça, il savait que ce jour arriverait. Ce jour arriverait. Hein, il sait aussi, et je le lui ai répété dès le lendemain des élections, que je ne suis pas du genre à faire monter les gens pour leur faire plaisir, et puis quand je veux rompre avec les habitudes du passé, il lui restait effectivement que la solution, la deuxième solution, c'était de discuter avec Nicole Sanquer, qui a confirmé qu'elle restait à l'Assemblée de Polynésie française. Les choses sont, pour moi, les choses sont closes aujourd'hui.
Alors, vous n'avez pas justement remplacé Nicole Sanquer au gouvernement après son élection à la députation. Est-ce qu'on peut tout de même attendre de nouveaux ministres avant les territoriales?
Je pense évidemment pas
à l'éducation et au sport.
Je ne pense pas.
Donc vous garderez les sports.
Je ne pense pas, parce que je vous rappelle quand même que malheureusement notre marge de manœuvre est très très réduite au niveau du gouvernement. Vous savez, nos cabinets tournent avec 7-8 personnes maximum, y compris les secrétaires particulières dans nos différents cabinets. Parce que nous sommes limités au niveau du budget, nous avons droit à 4% de la masse salariale. Laquelle masse salariale est en train encore de baisser? Nous venons de faire le point du budget. Donc, voilà, les crédits rétrécissent de jour en jour et je ne peux pas faire ce que je veux au niveau du gouvernement.
Edouard Fritsch, est-ce que la liste du Tapura Huiratira pour les territoriales est déjà prête?
Non, à cette décembre. Pas avant décembre.
Pas avant décembre. Vous avez des pistes déjà?
Non.
Même pas.
Non, je vais être clair avec vous. Vous savez, dans ce genre d'exercice, effectivement, Elodie en a parlé, les chiffres obtenus lors des dernières législatives sont un guide. On récompensera ceux qui ont travaillé, on essaiera de pousser ceux qui ont du mal à s'exprimer sur le terrain, mais je ne peux, au moment où je vous le dis, je viens de tenir une réunion avec le comité directeur de Tapura Huiratira. Mon objectif premier, c'est de définir le programme pour la prochaine mandature, et c'est ça le souci aujourd'hui.
Alors justement, quels vont être les sujets forts de votre campagne pour 2018? L'emploi, enfin on pense à l'emploi.
On va continuer effectivement à se battre pour créer de l'emploi dans notre pays. Vous savez que nous avons continué et réellement ce n'est pas en vue des élections comme j'entends dire à l'Assemblée, mais nous avons besoin de stimuler l'entrepreneuriat dans ce pays, parce que ce n'est pas l'administration qui va créer. Bon, vous avez vu chez nous dans l'administration territoriale, on embauche peu, on ne fait que de régulariser certaines situations, puisqu'il y a effectivement des centaines de CDD qui aujourd'hui aspirent à avoir des contrats beaucoup plus rassurants pour eux. Les communes ne peuvent pas engager, parce que c'est aussi une lutte pour le fonctionnement, pour que nous puissions travailler un peu plus dans les communes. Personne dans les administrations aujourd'hui n'est capable d'embaucher du monde. Donc on se tourne vers le privé et c'est l'entrepreneuriat qu'il faut aujourd'hui stimuler. D'où ce soutien massif. Et nous continuerons ce que nous avons commencé si nous sommes réélus au mois de mai prochain, parce que c'est important pour ce pays.
Alors votre gouvernement, ou même vous, on avait parlé cette semaine à l'Assemblée justement, il est question d'affiner le dispositif des CAE.
Je vais vous dire franchement, et je l'ai dit en arrivant en octobre 2014, ce dispositif des CAE, et vous l'avez vu, nous l'avons modifié deux ou trois fois avec des actes pro, avec différents paramètres qui pourraient consolider cette affaire de CAE. Vous savez, les CAE sont des stagiaires. Ce sont des gens, effectivement, que nous employons pour 2 ans, que nous mettons en situation de travail, que nous mettons dans des entreprises, dans les communes, car nous souhaitons, et c'est mon vœu à moi, ce n'est pas nécessairement l'esprit dans lequel a été créé ce CAE, mais mon vœu, c'est que ces jeunes se préparent à rentrer dans le monde du travail, apprennent à respecter les heures, apprennent à travailler. Il faut qu'ils se mettent en situation de travail. Or, aujourd'hui, force est de constater que peu de jeunes ont intégré, ont pu obtenir des contrats à durée déterminée ou des contrats à durée indéterminée. Et une des raisons principales, c'est qu'ils n'étaient pas réellement employables. Donc, vous avez vu que dernièrement, nous avons effectivement, et nous allons continuer à dégager du temps sur ces CAE pour les mettre en situation de formation au CFPA, au centre de formation pour adultes. Tout moyen de formation est nécessaire aujourd'hui pour que ce jeune qui va faire du CAE soit employable. Et puis après, c'est un problème d'assiduité, c'est un problème de respect. Enfin, vous savez, c'est mon souci principal, parce que je pense que les jeunes ont tous quelque part une envie de s'exprimer, mais il faut leur donner les meilleures conditions possibles pour qu'ils s'expriment.
Et ça, vous allez le faire à d'affiner ça avant 2018, avant les territoires?
On a commencé. Mais j'ai encore quelques idées pour faire évoluer cela, et je pense qu'on en parlera dans le programme.
Alors, autre question également, suite aux tensions, on en parlait en début de journal, qui existe aujourd'hui au comité olympique, parce que vous êtes également ministre des Sports, avec Tawiti Nena. Est-ce qu'il s'agit, Edouard Fritsch, d'une bataille politique? Je parle des délégations de services publics aux fédérations sportives, de l'arrêter pour demander de valider les statuts.
Non, c'est pas. Vous savez, je fais tout pour qu'on évite de mélanger la politique à toutes les sauces. Les aides du pays, nous essayons de les attribuer sans regarder l'origine. Vous avez vu, et je montre l'exemple avec les communes. La commune de Faa aujourd'hui est aidée. La commune d'Outourois, comme toutes les autres communes, qu'elles soient Tapurahuid Atira, dont le maire est Tapurahuid Atira ou Tahoerahuid Atira, je ne veux plus ce genre de mélange dans les genres qui ont fait que ce pays aujourd'hui effectivement manque de confiance en lui-même. Donc le problème de la délégation de services publics au niveau de ces deux fédérations, puisque deux seules fédérations sont concernées, le rugby et le football, ce n'est pas une décision. Ce n'est pas une décision de la ministre. Leur situation a été examinée par un comité constitué par des représentants de l'État, par des représentants de la direction de la jeunesse et des sports, effectivement, qui ont abouti au fait que cette délégation ne pouvait plus être donnée parce qu'il manquait dans les missions assumées par ces fédérations, que ce soit la boxe ou le rugby, cette mission de formation, d'encadrement, de prise en charge des jeunes. C'est ce qui fut décidé il y a un an ou deux ans. Maintenant, Tawhidine Nouah veut transplanter ce combat qui devrait se faire effectivement sur un match ou sur un ring. On va aller devant le tribunal. Il a déjà perdu à deux reprises devant le tribunal administratif, justement sur le problème de la délégation de service public. Je le laisse faire et je lui dis qu'il fasse ce qu'il veut. Moi, ce que je souhaite, c'est que les fédérations respectent les réglementations d'une façon générale. Voilà.
Alors, dernière question, puis on va s'arrêter là. Edouard Fritsch, vous partez ce soir en métropole. Oui. Le programme de ce déplacement, c'est quoi?
Alors, c'est pour rencontrer différents ministères. Celui de l'Outre-mer, parce que nous devons aujourd'hui rappeler au gouvernement central ses obligations en matière d'engagement pour les contrats de projet, pour les financements qui ne sont pas arrivés entièrement à la fin du dernier mandat parlementaire de nos amis qui sont partis. Et la deuxième chose, c'est de rencontrer le ministère des Affaires sociales pour parler des conséquences des essais nucléaires, puisqu'il y a encore beaucoup de choses à voir. Et je profiterai de cette occasion pour rencontrer le président du CIVEN, avec qui, bon, effectivement, tout cela va ensemble. Le ministre des Affaires sociales de Métropole, aujourd'hui, c'est elle qui est concernée directement par toutes ces commissions et par le suivi des dossiers qui concernent nos compatriotes qui le réclament aujourd'hui.
Et justement, est-ce que vous avez des informations sur les nominations éventuelles au CIVEN pour atteindre un quorum et démarrer les indemnisations?
Pas encore. Je n'ai pas. Mais je vais me battre pour qu'effectivement nos parlementaires y soient et que des personnalités de ce pays soient présents. C'est important que les discussions s'installent dans un climat de confiance, et pour cela il faut que nous soyons présents.
Toute dernière question, oui. Est-ce qu'on a une date pour l'instant pour le toilettage du statut qui est annoncé depuis un petit moment?
Non, je dois en parler avec la ministre de l'Outre-mer. Effectivement, lors du dernier voyage à Nouméa, il en a été question avec le vice-président qui m'a représenté. Donc nous devons en parler, et sur le contenu et sur la date. Mais je crois que effectivement le gouvernement est décidé à introduire ce projet avant la fin de l'année.
Merci Edouard Fritsch d'avoir accepté notre invitation ce midi. Il est 12h33, c'était le journal Grand Format réalisé avec Élodie Largenton et Thierry Hazard à la technique. À retrouver cet après-midi sur radio1.pf. Retour de l'info, c'est à 15h30. Très bon appétit à tous.